Radio Kapi.
Wafil quitte la RDC ce vendredi, son séjour fait encore la une de l'actualité congolaise. Pape François avec les jeunes hier au stade des martyrs, de l'exhortation à s'accrocher aux vertus cardinales par le souverain pontife, à l'exposition par les jeunes de leurs préoccupations, la rencontre était plus que bouillonnante, comme vous le suivrez avec nos reporters en entame de ce journal. Il faut coûte que coûte mettre fin à l'aventure des terroristes M23 dans la partie est de la RDC. Dans ce journal, ce vibrant appel des coordinations des sociétés civiles des deux Kivu à l'EAC de traquer ces hors-la-loi et les déloger des zones qu'ils occupent. Avec notre invité télésport Mitondeke, rapporteur général de la coordination territoriale de la société civile de Masisi, nous examinons les conséquences multiformes de l'agression de la RDC dans sa partie est et le gouvernement appelé à peaufiner des stratégies pour en venir à bout. Restons donc ensemble pour découvrir les autres contours de ce qui défraye l'actualité de la RDC. Auditeurs à l'écoute, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. En séjour en RDC depuis mardi dernier, le pape François quitte Kinshasa ce vendredi. Mais peu avant, il va rencontrer les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Ensuite, la cérémonie de départ sera organisée à l'aéroport international d'Ndjili, à l'issue de laquelle le Saint-Père prendra son vol pour se rendre à Djouba, au Soudan du Sud, pour la suite de sa mission apostolique. Hier jeudi, le pape François a rencontré les jeunes au stade des martyrs ici à Kinshasa. Comment s'est déroulé cet événement? Grâce à Mzati, notre envoyé spécial au stade des martyrs, nous décrit l'ambiance.
À notre arrivée au stade des martyrs à 4h du matin, déjà des centaines de jeunes prenaient d'assaut les principales entrées du stade, notamment celles situées sur l'avenue des Huileries, en faisant la queue pour accéder au stade. Les services de sécurité procédaient à un contrôle systématique à toutes les étapes d'entrée. Dans les gradins, les jeunes scandaient divers chants de joie en attendant l'arrivée du souverain pontife. C'est exactement à 9h comme prévu que le Saint-Père a fait son entrée au stade sous une ébullition. Il a commencé par faire une ronde à l'intérieur du stade pour saluer le public avant le début de la cérémonie, sous des cris de joie des spectateurs qui arboraient notamment des drapelets et à l'effigie du pape François. Dans son message, ce qui n'a pas laissé indifférents tous les jeunes, c'est lorsqu'il les a appelés à lutter contre la corruption. Là, ces milliers de jeunes ont enflammé les tribunes par des chants allant dans tous les sens pour fustiger la corruption, obligeant même le Saint-Père à arrêter de parler pendant quelques minutes et à les encourager pour cette bravoure. À la fin de cette rencontre, les mouvements de masse observés aux alentours du stade, prenant différentes directions, étaient encadrés par les services de sécurité.
L'appel à la prière quotidienne, l'unité, la communion fraternelle ainsi que la lutte contre la corruption sont les maîtres mots du message du Saint-Père à la jeunesse congolaise hier jeudi à Kinshasa. Des centaines de milliers de jeunes sont venus de toutes les provinces de la RDC pour l'écouter. Pour plusieurs d'entre eux rencontrés, ce message est un réconfort et un encouragement dans un pays agressé par le Rwanda sous le label du M23. Suivez ce reportage de Paul Matendo.
Cette jeune fille catholique retient par exemple qu'il ne faut jamais arrêter de prier pour soi-même et pour le pays en dépit de l'occupation de l'Est par les rebelles du M23.
Malgré la souffrance, malgré ce qui se passe à l'Est, nous devons toujours prier Dieu, nous devons toujours croire en Dieu, nous devons toujours être là pour notre pays.
Le message du pape François a été un encouragement pour réussir sa vie, explique un autre participant à cette rencontre.
Le message du pape nous encourage, nous les jeunes, à rester fidèles de notre foi, de l'Église catholique, et de rester fidèles avec nos sentiments, de ne plus suivre les tyrannies qu'on nous montre ici. Par nos politiciens, par nos grands, il faut être chrétien, il faut aussi travailler durement pour réussir sa vie.
Abba, la corruption, c'est l'essentiel de ce que plusieurs autres ont retenu, comme l'exprime par exemple cette jeune demoiselle.
Le pape a bien dit, abat la corruption. Et il nous demande de ne jamais baisser les mains. Voilà son message. Et nous sommes très heureux de l'accueillir dans notre pays.
Pour finir, le pape François a invité la jeunesse congolaise de continuer à prier pour lui.
Parlons à présent de cet appel de la jeunesse congolaise au Saint-Père ce jeudi 2 février ici à Kinshasa au Stade des Martyrs. Dans un message lui adressé, David Boulezi, représentant des jeunes, demande au pape François d'insister auprès des autorités congolaises afin de trouver une solution au problème de chômage qui mine la RDC. David Boulezi dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
Nous, jeunes, nous manquons de paix. Comme vous le savez, c'est depuis plusieurs décennies que l'Est de la République démocratique du Congo est en guerre, avec des conséquences néfastes sur notre formation et notre éducation à la vie et à la foi. Beaucoup de personnes sont victimes de la haine et de la division, même tribale. Très cher Saint-Père, nous voulons bâtir un monde meilleur, mais la crise socio-politico-économique nous déstabilise. Nous voulons travailler, mais le chômage nous guette. Insistez auprès des dirigeants du monde, auprès des dirigeants du Congo, qu'ils s'occupent réellement des jeunes. Nous voulons bâtir notre Église et notre société congolaise dans la justice et dans la réconciliation.
Deuxième titre de ce journal, réuni à Goma le 30 janvier dernier, les coordinations des sociétés civiles du Nord Kivu et du Sud Kivu ont adressé un mémorandum conjoint au président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC, dont la RDC est membre. Dans ce mémo, les deux coordinations expriment leur ras-le-bol devant la souffrance imposée à la population par l'avancée des rebelles terroristes du M23 RDF et demandent à Evariste Ndayishimiye de convoquer le plus vite possible une réunion des chefs d'État de la région pour commencer à les traquer. Cela conformément à la décision du mini-sommet du 23 novembre 2022 à Luanda. Placide Ndilamba, secrétaire exécutif de la société civile du Nord Kivu, explique dans ses propos choisis par Jules Ngalo Amona.
Nous nous disons au président de l'East African Community à bien vouloir urgemment convoquer les chefs d'État des États de l'Afrique de l'Est pour prendre cette décision de donner ordre à leurs forces de traquer les M23. Nous ne serons plus capables de tolérer une force militaire touriste dans notre pays. Donc, nous demandons au président de l'EAC de le faire urgemment et de donner ordre à cette force de pouvoir traquer les M23 et redonner la paix à nos populations qui doivent rentrer chez eux, surtout que cette population vit de l'agriculture. Toute une saison est en train de s'épuiser alors qu'ils sont dans des camps. Comment ils vont vivre? C'est les condamner à la pauvreté, et avec la pauvreté, c'est la mort. Quand est-ce que nos zones vont se développer?
Dans la province du Sud Kivu, le député national Jean-Olive Moudekereza plaide pour la construction et rénovation de l'aéroport de Kavumu. Un aéroport qui, selon lui, devra servir de secours chaque fois en cas de problème à Goma, au Nord Kivu. Il insiste également sur la réhabilitation urgente des routes nationales qui relient le Sud Kivu aux autres centres de la sous-région des Grands Lacs. Jean-Olive Moudekereza, qui est en vacances parlementaires à Bukavu, s'exprime au micro de Emmanuel Lamejiwa Kabedi.
Si aujourd'hui le gouvernement ne met pas des moyens pour ouvrir la route RND Bukavu-Goma, si on ne construit pas l'aéroport de Kavumu, si on ne construit pas la route RN5 Ngomo jusqu'à Fizi Baraka Kalemi, nous serons asphyxiés. Nous sommes en guerre. On ira où? Si les voisins, nos ennemis, bloquent les gens, par exemple de Goma, il n'y a plus Rutshuru, s'ils bloquent Sac, il n'y a pas d'aéroport pour quitter Goma. Sinon, on nous bloque avec la route qui se détruit jour et nuit vers ouvrir la plaine de la Rusizi. Nous serons asphyxiés. Nous allons dépendre de qui? On ira où? La route RND, Shabunda, Mwenga. Nous avons des chars à Walungu, à Djerno, partout. Mais on ne sait pas évacuer nos produits. En 1967, le président Mobutu a construit l'aéroport de Kavumu dans une année. On l'appelait l'aéroport Michombero. Quoi, Mobutu a construit l'aéroport de Kavumu, 1700 mètres pendant une année, jour et nuit, on travaillait. Mais aujourd'hui, j'ai dit au gouvernement, nous sommes en insécurité. Construisons l'aéroport de Kavumu. L'aéroport de Kavumu sera l'aéroport de secours, l'aéroport stratégique dans la région. Sinon, on sera coincé, nous tous. Il n'y aura pas d'approvisionnement. Et si la guerre s'arrête, c'est le développement.
Dans la même province, le nouveau commandant de la 12e brigade de réaction rapide, général de brigade André Eonza Ouketi, a effectué mercredi une visite d'inspection du travail à l'état-major du 121e bataillon parachutiste positionné à Ilundu. Cette localité est située dans le secteur d'Itombwe en territoire de Mwenga voisin. D'après le porte-parole de la 12e brigade à Minembwe, le sous-lieutenant Jérémy Meyambe, le commandant sous-secteur opérationnel sur l'axe Minembwe en territoire de Fizi, a organisé une parade et une réunion de commandement avec les troupes de FRDC à Ilundu. Fiston Ngoma nous en parle.
Le général de brigade André Eonza a réconforté les troupes de FRDC de la 12e brigade et celles de la Task Force sur les sacrifices suprêmes qu'ils se donnent pour pacifier la région des Hauts Plateaux. Il a insisté auprès de l'armée d'aider les populations civiles à résoudre leurs différents problèmes. La souffrance des populations civiles de la région devient de plus en plus aiguë sur le plan humanitaire, a-t-il déploré. Le général de brigade André Eonza a conféré avec les notables membres des communautés locales, les exhortant à se désolidariser des groupes armés qui endeuillent de jour en jour la région. Il a interdit aux militaires d'utiliser le mot rwandais, une connotation qui renvoie aux étrangers pour faire référence aux Banyamulenge qui, selon lui, sont des Congolais. Dans son message, il a insisté sur la cohésion sociale entre civils et militaires pour faire face aux défis de la guerre asymétrique où l'ennemi se cache au sein de la population civile locale. Les notables ont assuré d'accompagner les nouveaux commandants de FRDC dans les processus de paix à Minembwe et ses environs. Ces notables s'opposaient à toute opération militaire contre les groupes Turois néo dans la zone, accusant les FRDC d'être des connivences avec les miliciens des groupes armés Mai Mai. La collaboration était mise en danger, rendant difficile toute opération militaire dans la zone. Des soldats des FRDC ont été tués par des présumés Turois néo et des civils également ont été tués par des présumés soldats des FRDC. D'Ouvira Fistongo Mamayaba, la Radio Kapi.
Retour dans le Nord Kivu, 1048 cas de rougeole, dont 12 décès notifiés depuis le mois d'octobre 2022 dans la zone de santé d'Oicha du territoire de Beni. Ces chiffres sont communiqués par l'infirmier superviseur chargé des activités de prévention et des surveillances épidémiologiques dans cette zone de santé. Archip Kiusa annonce le début pour lundi prochain de la vaccination pour empêcher l'explosion des cas. On l'écoute au téléphone de Guylaine Kassassia.
Jusqu'à présent, depuis le début de l'épidémie, nous venons d'atteindre 1048 cas avec 12 cas de décès. Maintenant, on s'est mis avec les infirmiers titulaires des aides de santé pour voir ensemble qu'est-ce que nous allons faire. Il y a notre antenne PEV qui nous a encore accordé 20 000 doses supplémentaires. Jusqu'à là, nous avons 30 000 doses et d'ici là, si tout va bien, le lundi, nous allons commencer à faire la vaccination autour des camps. Qui bloquait, c'était les outils de récolte des données. Nous avions des problèmes pour les produire et puisque ceux qui vont faire ce travail aussi doivent être formés. Alors, il y a une ONG Aliment qui a pris à charge la formation. Maintenant, les membres d'équipe de vaccination, c'est là où il y a le nez de problème puisque jusqu'à présent, personne pour prendre à charge ces gens. Voilà là où on en est. Mais Dieu voulant, avec le moyen de bord, les lignes, on pourra voir comment faire. Puisque nous allons utiliser toutes les stratégies fixes ou fixes avancées.
Autre nouvelle d'actualité, dans la province du Kwilu, le vol des motos spécialement de marque Boxer devient monnaie courante dans la ville de Bandundu, chef-lieu de cette province. Au moins 20 motos ont été volées au mois de janvier 2023 par des incivils communément appelés Kuluna. Parmi ces motos volées, au moins 14 ont été récupérées par les services de sécurité et restituées à leurs propriétaires. C'est le porte-parole et chargé de communication de la PNC Kwilu, le colonel Camille Atungale, qui a livré ses statistiques mercredi 1er février 2023. D'après lui, les motards et leurs motos constituent actuellement la cible principale pour ces incivils qui vendent ces motos. Il appelle la population à la collaboration avec la police pour dénoncer ces inciviques. Colonel Camille Atungale est au micro de Irène Boma.
Vous savez que la moto constitue d'abord le moyen de transport le plus utilisé dans notre ville de Bandundu actuellement. D'ailleurs, on ne peut parler que de la moto. Et c'est le même moyen qui est le plus envié par les inciviques. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent résoudre ça facilement. Et même à vil prix, ils trouveront des clients. Voilà pourquoi ils s'attaquent le plus aux motards. Depuis le début de cette année 2023, encore au mois de janvier, il y a déjà eu au moins 14 motos volées et récupérées par la police. Et encore au moins 5 aussi motos qui courent encore cavale avec leurs voleurs et que la police est en train de rechercher. Mais au moins, près de 14 motos ont déjà été volées d'ailleurs, ont déjà été récupérées par la police et restituées à leurs propriétaires. C'est l'une des cibles de ces inciviques, les motos, les motards. chaque fois que nous sommes informés à temps, on essaye d'alerter les différents postes pour qu'on puisse les rechercher. Donc ce n'est pas toujours facile pour eux de nous échapper. On les récupère facilement aussi. Tout ce qu'on peut demander à la population, c'est la franche collaboration, que la population puisse dénoncer ces incivils.
Actualité internationale.
Sud-Soudan, près de 60 jeunes pèlerins et chefs spirituels ont parcouru la distance, agitant des drapeaux, chantant des hymnes et prêchant l'unité de la ville centrale de Rumbek à la périphérie de Juba. Un voyage d'environ 400 km pour saluer le pape François qui devrait atterrir dans la jeune nation ce vendredi. Nous combinons les deux aspects, nous marchons vraiment pour la nation et marchons aussi pour nous rencontrer en Dieu et en Christ, a affirmé un évêque catholique. 4 ans après la normalisation des relations entre les deux nations, le président Mahamat Idriss Déby Itno et son homologue israélien Benjamin Netanyahu ont inauguré jeudi l'ambassade tchadienne à Ramat Gan, dans la banlieue est de Tel Aviv. Israël avait reconnu le Tchad lorsque le pays avait déclaré son indépendance de la France en 1960 et ouvert une ambassade à N'Djamena en 1962. Les liens entre les deux anciens alliés avaient été rompus en 1972 sous la pression des nations africaines musulmanes.
L'invité.
La situation sécuritaire et humanitaire demeure préoccupante sur l'axe Goma-Masisi-Kichanga depuis le début des affrontements sur cet axe. Cette guerre d'agression est à la fois politique et économique et les autorités devraient analyser objectivement ce contexte afin de définir toutes les stratégies pour vaincre l'ennemi. C'est ce que soutient le rapporteur général de la coordination territoriale de la société civile de Masisi. Telesphore Mitondeke, qui est notre invité, explique la situation dans cet entretien accordé à Sifa Maguru.
Monsieur Mitondeke, bonjour.
Bonjour, madame.
Quelle est la situation sécuritaire et humanitaire sur l'axe Masisi-Kichanga?
Elle est précaire parce que les affrontements massaux, en tout cas continuent les répétitifs depuis l'occupation de la cité de Kichanga par les terroristes du M23. Et aujourd'hui même, il y a eu encore affrontements sur plusieurs fronts, comme en Dondo, sur la direction Kichanga-Mweso, mais aussi il y a eu, l'ennemi a choisi aussi troubler encore une fois Burungu, ce qui a créé une débandade même dans les chefs des populations de plusieurs agglomérations telles que Nyamitaba, mais aussi il faut souligner que la situation humanitaire aussi va de mal en pire, parce que la population qui aujourd'hui s'est déplacée dans plusieurs directions, que ce soit en territoire de Masisi, tout comme sur une partie du territoire de Walikale. Il y en a même certains déplacés qui sont arrivés jusqu'en ville de Goma. Il faut prendre le cas, par exemple, de la population qui a pris la direction de Mweso, Kalembe, Pinga, où ce sont déjà des zones généralement coupées. Ça voudrait dire que la population ne bénéficie même d'aucun couloir humanitaire pour bénéficier soit à certaines assistances.
Par rapport à la situation sécuritaire qui se vit actuellement dans les Masisi depuis l'occupation des Kichanga, que pensez-vous, que chercheraient les rebelles du M23 dans d'autres parties de Masisi, à part Kichanga qui est un milieu stratégique dans les Masisi? Est-ce que côté Burungu, il y a quelque chose que ces rebelles peuvent viser là-bas?
Vous n'avez besoin de rappeler la démarche de ces terroristes parce que c'est bien connu. Cette guerre d'agression a comme, c'est une guerre en fait à la fois politique et économique. Ça voudrait dire qu'au-delà de la cité de Kichanga qui reste une cité stratégique pour le territoire de Masisi et pour la province du Nord Kivu, il y a d'autres endroits qui restent dans le viseur de ces terroristes et qu'ils chercheraient à tout prix occuper, c'est principalement également la carrière minière de Rubaya. C'est aussi dans le viseur de l'ennemi, parce que Masisi, avec les gisements miniers de Rubaya, c'est en tout cas de la richesse, c'est de l'économie de tout un pays, et par cette guerre, ils veulent à tout prix aller occuper et exploiter cette carrière minière à leur faveur. Mais également, ils ne font pas oublier aussi la facette que l'ennemi cherche à couper intégralement c'est-à-dire la communication de la ville de Goma avec les territoires de Masisi. Ça va aussi couper la communication de la ville de Goma et le reste de la partie du Sud Kivu qui communique avec la ville de Goma partant de la route Sake-Masisi et aussi Sake-Bweremana, Minova jusqu'à Bukavu. Donc l'ennemi cherche à tout prix aussi asphyxier la ville de Goma. Et asphyxier la ville de Goma, c'est-à-dire qu'il cherche à freindre les mouvements sur toutes les directions et que la population de Goma restera
dans une enveloppe fermée, et cela pour imposer à tout prix qu'il soit négocié par le gouvernement congolais.
Et au regard de cette situation stratégique que présente le territoire des Massissi, vous venez d'énumérer plusieurs aspects, qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement, à l'armée, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'en arriver là?
Il est temps de comprendre aujourd'hui que la quintessence de faire une analyse objective de la guerre et de différencier également la guerre aux batailles qu'on est en train de mener actuellement, c'est une chose qui, en tout cas, ne doit pas nous dépasser tous en tant que Congolais. Nous devons comprendre la corrélation entre notre guerre à mener et toutes les batailles déjà entamées pour essayer de voir sur quel point nous allons vaincre l'ennemi, parce qu'il faut le vaincre. Ça doit rentrer dans la conscience de tous les Congolais, que ce soit la conscience de nos dirigeants qui doivent mettre toutes les batteries en marche afin de mobiliser toutes les voies possibles pour vaincre l'ennemi. Ça rentre aussi, ou ça appelle aussi à la conscience de toute la population congolaise, chacun en ce qui les concerne, de se dire « je ne trahirai jamais mon pays ».
Monsieur Télésphore Mitondeke, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et voilà comment se referme cette édition de Journal sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs, nous vous disons sincèrement merci pour votre attention soutenue.